102.1.
Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 10h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonine Iaccarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlée en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Chaque lundi soir, on a le plaisir d'être en compagnie de Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice. Il est avocat, c'est un spécialiste de la SAC, de l'IVAC, de la CNESST. Si vous avez des dossiers, c'est bellemareavocat.ca. Maître Bellemare, quel match de hockey on a eu hier entre le Canadien et le Lightning de Tampa Bay. Bon Dieu que c'est passionnant, ce hockey-là.
Il n'y a pas de doute que ça swingait pas mal dans le Centre Bell, mais... En même temps, il y a beaucoup d'inquiétudes. Écoute, moi, il y a un ancien coach avec qui j'ai travaillé, parce que j'ai fait, comme tu le sais, 20-25 ans de hockey mineur avec mes enfants.
Ouais.
Et on avait un coach qui nous disait, le hockey, c'est un jeu d'erreur. Et effectivement, quand tu regardes un match de hockey, peu importe que ce soit à l'aréna, dans un stade ou à la télévision, tu vois qu'il y a des erreurs. Mais une passe à la palette, là, c'est un peu le B.A.B.A. du hockey, non?
Oui.
Je regarde Tampa Bay hier, là.
Oui.
Beaucoup moins de passes, mais passe à la palette. Paf! Direct dessus.
Mm-hmm.
Avec l'espace. Un autre passe. 3-4 passes en ligne. Très rarement, ils vont manquer des passes. Nous autres, là, d'un patin... En avant, en arrière.
Il y a une raison pour ça, Maître Bellemare. Moi, j'étais un joueur de hockey. J'aurais pu jouer dans la Ligue nationale, mais j'étais trop petit. C'est la nervosité. On a une équipe qui est très jeune. Je pense que c'est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal. Les gars sont pas habitués d'être en série. Ils trouvent que les gars l'autre bord sont gros, sont forts, ils font peur. Fait qu'ils font des passes des fois qu'ils n'auraient pas fait pendant la saison régulière parce qu'ils ont peur de se faire ramasser. Caulfield a été absent une bonne partie de cette série-là. Même affaire pour Nick Suzuki. Nick Suzuki, quand il était aux Olympiques, Maître Bellemare, là, ça n'a pas été le meilleur joueur sur la glace. Là. C'est son jeune encore pour être des gars bien établis puis avoir une solide expérience dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui fait en sorte qu'un Zachary Bolduc, normalement qui fait des passes qui ont un peu plus de sens dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est à 3 pieds, 4 pieds, 4 pieds du palais. Là.
Ben, Bolduc a très bien joué hier. Moi, je trouve un truc qu'il a très bien joué. Il a eu un but un peu chanceux, là. Mais il a foncé au net. Puis,
Je vous parle de la nervosité. T'sais, Caulfield, je veux dire, il est capable d'enfiler une rondelle dans quasiment un pouce carré. Là, ouais. Mais là, ça, c'est en saison régulière. Avec le stress, il tire à côté. Mais au fur et à mesure que la série va avancer, ça va se calmer. Ça. Les gars vont reprendre sur eux. Là. En tout cas, moi, je suis positif comme ça. Là.
Non, moi aussi, je suis positif, Yannick. Mais je regardais hier, là, puis écoute, on n'a pas les statistiques sur les passes. Mais Tampa Bay, 9,5 sur 10, les passes, ça palette. T'sais, tu fais une passe, direct dessus. Pas en arrière, pas d'un patin, pas sur le côté, pas trop en avant, etc. Alors, nous autres, là, c'est à peu près une passe sur 3 qui se rendait directement sur la palette. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Moi, quand j'ai vu hier, à la fin de la deuxième, le but de Tampa Bay, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, bon, là, il rentre au vestiaire 2-1. 2-1, c'est comme 2-2. Là. C'est tellement fragile. Là. Alors là, on s'en va à Tampa, mon cher. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ton pronostic?
Il n'y a aucune panique, Maître Bellemare. C'est 2-2. On s'est fait dominer au niveau physique là, au dernier match. Slavkovski qui a eu toute une mise en échec en plein centre de la patinoire. L'avant-dernier match, Slavkovski s'est battu. Il a mangé une petite mornif. Les gars vont reprendre sur eux, là. J'en suis persuadé. On a un gardien de but qui est un jeune gardien de but en Dobèche, mais qui est solide devant le filet. Moi, je pense qu'on va avoir un septième match, puis ça va se terminer, que c'est le Canadien qui va réussir à passer Tempa. Là. Tempa, en feignant d'avoir des coups d'en face ou en se tirant à terre, les arbitres, ça va, ils vont s'en rendre compte, puis ça va se retourner contre eux. Les arbitres vont se venger, Maître Bellemare, j'en suis persuadé.
Mais ils ont toutes une machine de hockey.
Oui.
Honnêtement, ben oui. Tempa, là...
Hagel, là. Hagel, ça a joué dans le camp de recrues du Canadien, puis ils l'ont laissé passer, là.
Sergachev.
Après
la,
ça...
La grosse transaction de Marc
Bergevin. McDonough.
Ah, stick. Hey, je regarde ça. Mais toute une machine de hockey. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je trouve qu'ils sont relax. Ils rentrent dans la zone. C'est comme s'ils étaient tout seuls. Il n'y a pas de presse. Il n'y a pas de stress. Mais du côté physique, hier, on était pas mal présents, je pense. Du côté physique, il y a eu de très bonnes mises en échec de la part du Canadien.
Oui, mais la mise
Moi,
en échec...
Que le problème du côté physique, on était présents, c'est qu'il y a des erreurs,
ouais.
Comme je te dis, des passes manquées, l'avantage numérique, ça ne marche pas. Ça fait 5 ans qu'on traverse l'avantage numérique. Bon sang, tu sais, on doit trouver des solutions. En tout cas, écoute...
Ayez confiance, ayez foi au Dieu du Canadien, là.
Ouais, toi, t'es en main sur la je sais pas quel livre, là, bon, la Bible du sport.
Ouais. Je t'ai un gars de main.
Moi, je vais te dire, là, je suis un petit peu inquiet, mais c'est quand le prochain match?
C'est mercredi 19h.
Puis après ça, on revient à Montréal vendredi.
Vendredi, on revient à Montréal. Fait qu'on va avoir un match 7, j'en suis persuadé, Maître Bellemare.
Vas-tu aller voir la game vendredi? Non?
J'ai, malheureusement...
Si tu as la foi tant que ça, tu es capable de mettre une coupe de brun sur des billets de hockey?
Ben, si j'avais votre compte en banque, j'irais à tous les matchs, Maître Bellemare. Mais moi, je vais y aller dans les matchs de saison régulière. C'est plus dans mes prix.
Non, mais il y a un de mes amis qui est allé vendredi avec son fils. Je pense qu'il a payé 400 par billet. Il était dans section 300.
Ah, c'est en haut, complètement en haut. Là. Vous avez le dos sur le mur du Centre Bell. Là.
Oui, mais 400, tu sais, quand ça fait 5 ans que tu n'es pas allé au Centre Bell,
Maître Bellemare, 400 en cash, là, il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, là, mais vous devez travailler, vous êtes au Québec, vous êtes employé, vous devez travailler pour 800$ pour réussir à retirer 400$.
Oui, c'est sur le net, puis c'est pas déductible en plus.
C'est ça.
Je peux pas dire que ça me permet de mieux dormir et de gagner un meilleur salaire quand je vais voir le Canadien.
Exact.
Mais hier, c'est un peu, tu sais, les jeux... Tu sais, un dimanche soir, les gens qui vont au Centre Bell, qui sont là, puis qui applaudissent, 2-0. Tabarnouche! Comment ça se fait qu'on a laissé passer cette avance-là? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de garder une avance de 2-0? Il reste, 2 minutes à la deuxième période? J'en revenais pas.
Vous êtes ben trop fâché, Maître Bellemare. Ça va, c'est 2-2, là. Il n'y a pas de panique encore. Là. Si Tampa Bay gagne mercredi, puis j'entends cette panique-là, je pourrais peut-être comprendre. Mais à 2-2, le Canadien ne se fait pas tant dominer que ça. Ça va bien aller.
Mais bon, je trouve que Bolduc a bien joué. Hudson a très bien joué. Il aurait peut-être pu lancer au but un petit peu plus. Il a quand même donné la victoire au Canadien l'autre fois en supplémentaire, Hudson. Tirer au but, tirer. La rondelle, là, elle n'est pas folle, elle a des yeux, la rondelle. Et même s'il y a du monde devant le but, elle va se frayer un chemin, tu remarqueras, il y a beaucoup, beaucoup de buts qui sont comptés sur des lancers anonymes où tu lances à peu près, tu sais, au niveau du but, puis ça finit par passer. C'est souvent ça qui se produit, hein. C'est rare les lancers dans slot là, qui vont rentrer directement. Au niveau du gardien, souvent, ça va se promener, la rondelle va se promener, lancer. Je pense que c'est à peu près la seule façon de battre cet excellent gardien de but, là, Vasilevski, quelle machine de hockey, ce gars-là, il est incroyable. Moi, je regarde ça, puis je me dis, c'est un gros gardien, mais des gros gardiens, il y en a partout dans la Ligue nationale. Mais lui, il arrête les rondelles.
Ouais, il est immense, son équipement est immense. Lui, il n'est pas très gros. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sans son équipement, là, mais il a de l'air à avoir du stock ses épaules, puis pas à peu près. Maître Bellemare, en fin de semaine, ça aurait pu être pire. Là. Heureusement, le Secret Service était là pour défendre Donald Trump. Mais c'était le fameux dîner des correspondants dans un hôtel de Washington. Et... Ben, il y en a un qui s'est présenté là avec une arme dans le principal but de mettre fin à la vie du président des États-Unis. Puis, heureusement, là, il a raté sa shot. C'était quand même trois fois là, qu'on tente d'attenter à la vie du président des États-Unis là, en quelques mois. Là.
Ouais, ça m'a fait penser un peu à... Parce que c'est pas la vie du président des États-Unis qu'il voulait enlever, c'est la vie de tout le monde. Il voulait... J.D. Vance était là, Marco Rubio, le secrétaire d'État, était là, et ces trois personnes-là, qui sont les plus importantes et plus influentes sur la planète Terre, risquaient d'y passer. Si ça avait été le cas, je ne sais pas c'est qui aurait pu prendre la relève. Peut-être le juge en chef de la Cour suprême, parce que je sais que la Constitution américaine prévoit qu'à un moment donné, si tout le monde tombe d'un coup, un crash d'avion, quelque chose du genre, je pense que c'est le juge en chef de la Cour suprême qui finit par diriger les États-Unis.
Il n'y a pas un survivant désigné?
Ah, je ne sais pas, il faudrait voir. Mais le président est flingué, le vice-président est flingué, puis le secrétaire d'État est flingué, je vais te dire une affaire. Ça me faisait penser à l'histoire d'Abraham Lincoln, parce que James Wilkes Booth, qui a tué le président Lincoln en 1865, il faisait partie d'un complot pour éliminer quatre dirigeants américains. C'est ça le complot. Il y avait le président, il y avait le vice-président, il y avait le chef des armées. Il voulait décapiter littéralement les États-Unis. Et je ne sais pas ce gars-là là, qui a été finalement intercepté, s'il avait l'intention de se débarrasser de tout le monde. Mais c'est sûr que s'il était rentré là et qu'il avait pu faire une rafale, là, il aurait pu en éliminer plus que le président des États-Unis. Il était tout là. Mais moi, ce qui me sidère, et après l'attentat de Donald Trump il y a quelques années en campagne électorale, comment tu peux rentrer avec une arme dans un hôtel à Washington, une arme d'assaut, on ne parle pas d'un fusil à plomb là, ou d'un fusil à eau, là. Il rentre avec une arme, il se loue un hôtel quelques jours avant, il n'est pas dérangé, il chaîne son arme, il prépare tout ça. Mais c'est quoi les services secrets de la plus grande puissance mondiale? C'est quoi cette gang de ticounes-là? Moi, je ne sais pas. Là. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à la place de Trump. Mais il y en a là, qui n'ont pas fait le job. Encore une fois, puis à un moment donné, écoute, Ronald Reagan a été victime d'un attentat. Il a été tiré, il a été blessé, je pense, à une jambe. On a des assassinats, il y en a. Là. Et je ne sais pas, mais moi, je suis très impressionné par ça, d'autant plus que ça faisait un certain temps qu'on savait que Trump allait s'adresser à la presse américaine, au fameux souper festif là, de la presse américaine. Cette fois-ci, il était, donc c'était sur toutes les tribunes. Alors, c'est dans un hôtel, c'est pas dans un endroit ultra sécurisé comme le Capitole ou comme la Maison-Blanche. Mais c'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait que...
Maître Bellemare, moi, je suis un peu comme vous. Je suis perplexe par rapport à la sécurité du président des États-Unis. Il y avait le président des États-Unis, il y avait J.D. Vance qui était là, il y avait d'autres personnes qui sont en charge des États-Unis. Je me dis, ben, c'est sûr et certain que la sécurité devait être à son paroxysme. Et comme vous l'avez dit, le suspect s'était loué une chambre d'hôtel en haut quelques jours plus tôt. Il a réussi à monter son arme à l'intérieur de sa chambre d'hôtel. Par la suite, il est descendu. Il a passé le premier poste de sécurité là, de ce qu'on nous mentionne, où c'est des policiers municipaux qui sont là, et par la suite rendu au deuxième poste, donc un poste avant d'arriver à la salle du président des États-Unis. Ben, il a sorti son arme, puis il y a eu des coups de feu qui ont été envoyés. Heureusement, il n'y a pas de mort. Mais on nous dit, puis il y avait un spécialiste de la Gendarmerie royale du Canada, spécialiste de la sécurité rapprochée, là, qui parlait dans la presse, puis il disait, ben là, on n'aurait pas pu fermer l'hôtel pendant une semaine. Ben, si tu peux pas fermer l'hôtel pendant une semaine, fais donc pas cet événement-là à cet endroit-là, tu sais. Si tu peux pas faire vider l'hôtel à 8 heures le matin avant que tout le monde puisse prendre place dans la salle pour vérifier tout qu'est-ce qu'il y a dans les chambres, vérifier tout qu'est-ce qu'il y a dans les espaces clos, avec des chiens renifleurs, y a-tu des explosifs, y a-tu des armes, y a-tu de la drogue, y a-tu ci, y a-tu ça, ben envoyez donc pas ces gens-là hyper importants pour les États-Unis à cet endroit-là. Le Secret Service semble faire preuve de laxisme en ce qui a trait au président des États-Unis. Puis, T'sais, moi, je ne suis pas un adepte des théories du complot. Là. Est-ce qu'on sait tout? Probablement pas. Mais le Secret Service semble errer à certains endroits alors qu'il protège l'homme le plus puissant de la planète. Je me poserais des questions si j'étais Donald Trump. Là.
L'homme le plus puissant puis l'homme le plus détesté.
Exact.
Aussi. Et peut-être plus pour Trump parce que lui, évidemment, les coups de gueule, il est bon là-dedans. Il provoque... Il provoque les images de Jésus-Christ, les Palestiniens, Gaza, Israël. En tout cas, tu sais, regarde, il y a des prises de position à tous les jours et on sait qu'il y a beaucoup de fanatiques qui pourraient s'en prendre à lui dans un endroit comme celui-là. Alors, fermer l'hôtel, d'abord, faire ça dans un hôtel, c'est la tribune de la presse. Il est l'invité de la tribune de la presse, je comprends, mais normalement, au moins 5 à 7 jours avant l'événement, vider complètement la place. Parce que tu peux mettre des explosifs dans des toilettes, tu peux mettre des explosifs dans le toit, tu peux en mettre dans des raccoins de l'hôtel. Quelqu'un qui a les plans de l'hôtel est capable de mettre des explosifs. Je te parlais de Booth tantôt, qui a tué Lincoln en 1865. Il est rentré dans un théâtre, le Théâtre Ford à Washington. Puis mon Lincoln est en train de regarder une pièce qui s'appelait « My American Cousin ». Il est avec sa femme. Et puis, il attendait Ulysse Grant, qui était un peu son garde du corps, qui était le responsable de la sécurité intérieure aux États-Unis. Puis Grant avait un problème de train, puis il n'était pas arrivé à temps. Fait que mon Lincoln était tout seul dans sa loge. Il se fait tirer une balle en arrière de la tête. Tu sais, c'est tellement facile. Et même aujourd'hui, avec toutes les mesures de sécurité qu'on a, il reste qu'une balle, c'est vite rentré, là. Et c'est facile de tirer, et même à distance, explosif, n'importe quoi,
ouais.
Mettre des gaz, un attentat. Ils peuvent rentrer, tu sais, le Bataclan à Paris, là. Ils sont rentrés 7-8, là, puis ouais, ils se mettent à tirer, puis ils en ont tué au-dessus d'une centaine, je pense que c'est 130 personnes.
Mm-hmm.
Il peut rentrer un commando, imagine-toi, là, il rentre un commando, ils sont 4-5, là, puis ça se met à tirer avec bien armé, là, c'est terminé. Là. Alors ouais. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des mesures de sécurité un petit peu plus développées pour M. Trump, compte tenu de toute l'adversité qui provoque, toute la colère qu'il provoque, le côté extrême de l'individu? Là, c'est le temps parce que, écoute, jamais 203, il y en a une fois, il y en a deux.
On est rendu à trois fois. La première fois, c'est son oreille qui a passé ou qui aurait passé parce que visiblement, il a guéri quand même assez rapidement. Par la suite, il y avait un tireur sur un terrain de golf qui a été découvert. Heureusement, on l'a découvert. Puis là, celui-là en fin de semaine. Mais oui, il faut se poser des questions par rapport à ça. Moi, j'ai jamais rencontré le président des États-Unis. Le président des États-Unis n'est jamais venu à ma station de radio. Mais dans mon ancienne vie radio, on avait reçu Stephen Harper à l'époque. Puis j'avais vu toute la sécurité qui entourait Stephen Harper à l'époque. Puis je peux vous le dire, il y a de l'advanced team, là. Une équipe qui se déplace avant que le premier ministre du Canada arrive. Puis ils rentrent dans place, ils font tous les étages, vérifient tous les espaces clos. Il y a un chien qui est renifleur qui fait le tour de la bâtisse au grand complet. Puis il y a un trajet qui est déterminé d'avance. Il y a des projets de fuite aussi, en cas de fuite, par où est-ce qu'on peut sortir. Puis on avait demandé des portes de secours à même la bâtisse sur la grande allée. Puis on avait été vérifié, puis on prenait des notes patati et patata. Je peux vous dire que quand Stephen Harper est arrivé ici, là, on sentait en sécurité, en sacrifice avec toutes les gens qui étaient armés. C'était assez sévère comme sécurité, plus les policiers municipaux aussi qui les accompagnaient. C'était vraiment gros. Fait que j'ose pas imaginer c'est quoi la délégation qui accompagne Donald Trump, mais visiblement, en fin de semaine, ils ont erré.
Oui, mais tu peux avoir aussi, là, on a affaire à un individu qui est un étranger, qui s'est loué une chambre d'hôtel.
Mais c'est pas un étranger, c'est un Américain, là.
Non, mais tu peux avoir parmi les proches des gens, des journalistes, un journaliste qui décide, lui, que parce que, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'amis chez les journalistes Trump, là. Il faut que tu te méfies de ton père dans ce genre d'événement-là, là, tu sais. C'est pas juste... Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Parce que je te parle de Lincoln. Lincoln a été tué par Booth, qui était un acteur. Il avait accès au Théâtre Ford. Et c'était un acteur très, très réputé aux États-Unis, très respecté.
Ouais.
Et il était dans son bocal. Il avait accès au Théâtre Ford, puis il n'y avait pas de sécurité, puis il n'avait pas besoin de demander rien. Il y avait des loges là-dedans, puis il se promenait, puis il a tiré. Alors, tu peux avoir des gens qui sont même dans le monde des médias. Ça peut être des fois un assistant de recherche, ça peut être des fois un conducteur d'un journaliste, des fois ça peut être un journaliste lui-même, des fois ça peut être un recherchiste. Il y a beaucoup de monde dans ce genre de souper-là. Il y a des centaines de personnes. Et même ces gens-là doivent être fouillés pour être sûr qu'au niveau de la sécurité, il n'y a personne qui va décider de s'en prendre au président. As-tu vu l'entrevue après que la fille de CBS a demandé à Trump, en lisant l'extrait? Parce que Trump a donné une entrevue à CBS après. Puis la journaliste, elle se met à y lire le texte le texte du gars, là, de l'agresseur, ouais, le potentiel, là, qui dit « Moi, j'ai un président qui est pédophile, puis violeur, puis tout ça. » La fille s'en va lire un texte qui avait été écrit par le potentiel agresseur. Il est en maudit, puis il dit « C'est une honte ce que vous faites là, madame. » Il a très bien répondu. Mais tu sais, la journaliste s'en va comme porter les propos de cet individu-là live en entrevue au président.
Comme si ça avait une certaine valeur.
Comme si ça avait une certaine valeur, puis elle se fait en quelque sorte une espèce de porte-parole de ces gens-là là, qui n'aiment pas Trump et qui décident de s'en prendre à lui pour toutes sortes de raisons, alors que c'est vrai qu'on va me dire, il y a toutes sortes de rumeurs autour du président, mais techniquement, il n'y a pas de D'abord, la pédophilie, c'est pas ça pantoute son affaire, là. Peut-être des agressions sexuelles, mais même là, il a été quand même acquitté par les tribunaux qui l'ont éventuellement jugé. Alors, tu sais,
le Secret Service qui...
Mauvaise journée, disons.
Ouais, le Secret Service qui évacue J.D. Vance avant Donald Trump. On voit clairement ça sur les images. Après ça, on s'en va chercher Donald Trump. On l'échappe à terre. La première dame des États-Unis qui avait de la difficulté aussi à être évacuée, la dame avec qui Donald Trump s'entretenait, elle a fini à quatre pattes. Il n'y a personne qui l'aidait derrière le Secret Service. Ah, c'était pas beau à voir, là. Ça m'a fait penser à quand il y a eu attentat sur Pauline Marois, Maître Bellemare. Il y a un bodyguard qui tirait d'un bord, puis l'autre bodyguard qui tirait de l'autre bord, puis ils se sont trompés de bord, puis ils allaient du bord où le tireur était actif.
Ouais. Alors, écoute, je pense qu'il va y avoir encore de ce genre d'affaires-là. La fusillade au Parlement de Québec aussi en 1984 avec l'ortie, là. Toutes sortes d'épisodes, mais en quelque part, on se demande si les services de sécurité sont véritablement adaptés. La semaine passée, je suis allé au Parlement parce qu'il y avait une cérémonie pour remettre une espèce d'insigne, là, conseiller en loi de l'État. Aux anciens ministres de la Justice, on était 14 qui étaient là. Il y avait Gilles Rémillard était là, Pierre-Marc Johnson était là, Normand Jutras, Linda Goupil. Et moi, je suis rentré, mais comme je suis un ancien ministre, ouais, je n'ai pas besoin de passer par la sécurité, comprends-tu? Ma fille qui m'accompagnait, elle a passé par la sécurité. Oui, il y a un couloir de sécurité, mais encore là, je me suis dit, oui, c'est sécurisé d'une certaine façon. Il y avait du monde qui était là. Je n'ai pas remarqué s'il était armé, je ne pense pas, mais il reste que c'est quand même sommaire comme mesure. Tu sais, il rentre. Il faut toujours se mettre dans la tête d'un capoté là, qui décide, lui, de rentrer armé ou plusieurs personnes qui rentrent armées et qui décident de faire un carnage. Je ne suis pas sûr qu'on prend vraiment ça au sérieux. J'ai l'impression qu'à partir du moment où un épisode dramatique se produit, il y a comme un post-mortem de ça. Est-ce qu'on apprend vraiment de ça? Est-ce que le lendemain matin, on va vraiment mettre des mesures permanentes de sécurité, 24 heures par jour, avec des gens, puis tu sais, des armes, là, bien armées, plusieurs personnes qui vont envoyer un message dissuasif à quiconque voudrait s'en prendre à des personnalités publiques du monde politique, compte tenu de ce qu'on a actuellement. Puis tu sais, au Québec, là, ça brasse, hein? Puis la pandémie, là, il y a beaucoup de monde qui a gardé des séquelles de ça. L'isolement, l'antisocial, les maladies, ouais, les risques, le complotisme et tout ça. Et c'est pas juste chez nous, aux États-Unis aussi. Il y a beaucoup de gens fragiles, des gens qui ont mèche courte, qui sont susceptibles peut-être éventuellement de commettre des actes, pas nécessairement des tueries, mais des agressions, des batailles. On le voit partout, hein? On dirait que les gens sont plus à fleur de peau et je pense que les mesures de sécurité qui impliquent des personnalités publiques doivent être adaptées en conséquence de ça parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça peut frapper.
Je ne sais pas si vous avez écouté « Tout le monde en parle » hier.
Pas bien, bien, une petite affaire.
Il y avait Jean Charest qui était présent. Tout le monde en parle. Il agit
on
comme...
On a manqué ça, ben tabarnouche.
Votre ami Jean Charest, il agit
mon
comme...
grand chum. Il aurait pu m'appeler.
Ouais, peut-être. Il agit comme conseiller à Mark Carney en ce qui a trait à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. On lui a posé la question à savoir... Qu'est-ce que Christine Fréchette s'en va faire à Washington alors qu'elle n'a aucun pouvoir décisionnel au Canada, si ce n'est qu'au Québec? Et Jean Charest a très bien répondu en disant que Mme Fréchette peut rencontrer des gouverneurs, peut tisser des liens à Washington pour ce qui est des produits qu'on a ici au Québec versus ce qu'on exporte à Washington. Et il semblait très favorable à ce genre de mission-là pour la première dame du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de mission-là? C'est pas une mission économique, mais c'est pour tisser des alliances, là.
Ah, c'est purement politique, là.
C'est politique.
C'est purement politique. C'est pour donner à Mme Fréchette une envergure internationale. Je suis convaincu que si on était un an après une élection, elle ne ferait pas cette démarche-là. Elle l'a fait maintenant parce que, bon, ça va donner des bonnes images. Elle va rencontrer des gens qui vont être relativement complaisants. Elle n'ira pas rencontrer des gens qui sont hostiles. Elle va aller rencontrer des gouverneurs, probablement des gouverneurs des États du Nord, là, le Vermont, le Maine, là, qui sont plus démocrates, là, plus à gauche, et puis des gens qui sont favorables, qui sont ouverts au Québec.
Ouais.
Je ne pense pas que ça soit mauvais.
Mais ils vont certainement parler d'aluminium, de produits miniers. Ils vont parler d'alliage. Ils vont parler de moteurs d'avion, pièces d'aéronefs. C'est clair et net qu'elle peut parler de ça avec les gouverneurs, là.
Oui, c'est sûr. Elle peut en parler, mais tu sais, le problème est beaucoup plus grave. En fin de semaine, on nous montrait des reportages à la télé là, des nouveaux tarifs à 50 %, là. Dès qu'il y a un morceau, qu'il y a une pièce qui est d'aluminium dans un objet, là, il y a des droits qui sont augmentés. Alors, il y a des entreprises au Québec qui sont susceptibles de disparaître ou en tout cas de connaître une baisse importante. On parlait de 30 à 40 % des baisses de chiffre d'affaires, mais c'est au niveau de la CEOM que ça va se négocier. Si jamais il y a des négociations, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que la visite de Mme Fréchette, qui n'est pas connue du tout, là, ils ne savent même pas son nom, ils ne savent même pas comment son nom se prononce, là, les Américains, là, ils ne savent pas c'est qui. Là. Même M. Legault aux États-Unis. Tu sais, le Québec, il faut comprendre là, que ce n'est pas une grosse affaire. Là. Le Canada, là, c'est l'équivalent de la Californie en termes de population. On est à peu près 40 millions. C'est l'équivalent d'un des grands États américains. Il y a beaucoup d'Américains qui ne savent même pas qu'on existe ou à peu près pas. Alors, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est purement politique. Ça va. Les résultats, il ne faut pas trop s'y attendre. Je ne pense pas qu'elle puisse infléchir la volonté de Donald Trump d'imposer des tarifs complètement démentiels sur des produits, notamment l'aluminium, qui font beaucoup mal à notre économie. Elle va revenir et elle va dire « J'ai rencontré un tel puis un tel, puis j'ai fait part de mon inquiétude, puis on va avoir une réunion de travail éventuellement, puis j'ai l'intention de retourner, puis ça va donner des bonnes images. » Elle ne l'aurait pas fait, on lui aurait reproché. Elle le fait, est-ce que ça va donner des résultats? C'est un peu comme les visites du maire de Québec quand il s'en va un peu partout dans le monde, en Europe, là, puis qu'il s'en va rencontrer des supposés gens influents.
Ouais. Ben, ce qu'on nous dit du côté de la ville...
Il y a beaucoup de réserves sur ce genre de sortie-là.
Quand il y a des missions économiques, ce qu'on nous dit du côté de la ville de Montréal, ville de Québec, c'est que les maires de ces deux villes-là sont des ouvreurs de portes et à partir de ce moment-là, ben, les entreprises peuvent être entendues par aux premières discussions avec les maires et mairesse. Je trouve ça intéressant comme concept. En même temps, je reste à être convaincu. Moi, je suis du même avis que vous, Maître Bellemare, là. Moi, un maire là, c'est, ou une mairesse, c'est occupe-toi de nos routes, occupe-toi de nos vidanges, occupe-toi du recyclage, occupe-toi de l'eau potable, occupe-toi de la distribution de l'eau à travers tout le circuit, occupe-toi des égouts, puis occupe-toi du déneigement, occupe-toi des trottoirs, occupe-toi des pistes cyclables, mais laisse faire ce qui se passe en Europe. Là, laisse ça aux professionnels.
Oui, puis tu sais, Doug Ford, qui a fait sa publicité aux États-Unis, à un moment donné, quand Trump a décidé d'imposer des tarifs,
lui...
je sais que j'étais aux États-Unis à ce moment-là, puis je voyais sa pub qui était très bien faite, puis qui disait que l'Ontario est un partenaire économique important pour les États-Unis. Il n'est pas allé aux États-Unis, mais il a fait une campagne de publicité sur les grands réseaux généraux américains, puis il s'est fait entendre. Il a rejoint les gens dans leur salon. Alors, Québec est une destination touristique d'importance pour l'été prochain. Et on peut travailler sur notre potentiel touristique. On est une ville française d'Amérique, une ville fondatrice d'Amérique française. Et puis, on peut développer par le biais d'une bonne campagne de publicité qui va rejoindre les gens, qui va amener des bidous ici au Québec, autant sinon plus que des campagnes où le maire s'en va se promener en Europe, puis il y a trois ou quatre photos, puis tout ça, puis ça va donner quoi? Y a-t-il un homme d'affaires richissime qui va dire « Hey, le maire de Québec est en ville, je veux le voir pour investir 40 milliards au Québec dans une usine? » Ben voyons donc, pas bien que ça marche.
Non, je comprends très bien. Maître Bellemare, on va faire une courte pause. Je rappelle aux auditeurs qu'on a le plaisir d'être à chaque lundi avec l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST. C'est bellemareavocat.ca.
Marceau, le soir. Le segment que personne ne veut manquer le matin. Le Pit Stop de 7h55 avec Gravel et Marceau.
Le Canadien de Montréal qui jouait son deuxième match séries éliminatoires contre le Lightning de Tampa Bay. Ça a joué cochon en papy.
Quelle belle équipe, le Canadien de Montréal. Ils sont durs à pas aimer. Dans mon livre à moi, c'est une équipe que tu donnes en exemple aux jeunes. C'est une équipe de même qui devrait gagner la Coupe Stanley. T'es pas obligé d'habiller des sabourins pour gagner la Coupe Stanley. Mais le résultat hier, c'est que le Lightning a eu le dessus sur le Canadien au hockey et au point.
Scott Sabourin aurait dû être expulsé du match deux fois hier.
Je suis d'accord.
Quand l'intention d'un joueur est aussi claire, là, sort les vidanges.
Oui, moi, je suis d'accord.
Très d'accord. Ça vient dangereux pour les meilleurs joueurs.
Le Pit Stop de Boulevard 102.1. Lundi au jeudi, 7h55. Boulevard 102.1 veut savoir. Votre plume sera-t-elle à la hauteur? Cette semaine, l'équipe de Gravel dans le retour en collaboration avec Tyzone vous lance un défi un peu spécial. Celui d'écrire des proverbes au blvd.fm. Soyez créatifs, inspirés et surtout restez à l'affût pour savoir à quel animateur vous devrez adresser votre message. Chaque jour, vous pourriez gagner une carte cadeau de 50$ chez Tyzone pour craquer les biscuits de fortune. Et en bonus, courez la chance de gagner un an de Général Tao.
À la recherche d'un nouveau nid, pensez au condo locatif Le Charlie près de la rivière Saint-Charles. Comprend l'eau chaude et Internet ainsi que l'accès au gym, au lounge et à la terrasse. Visitez lecharlie.ca.
Jusqu'au 30 mai, économisez gros chez Pièces d'auto économiques. Profitez de 15% de rabais sur les disques de frein de première qualité BrakeMax et jusqu'à 20% sur les essuie-glaces Rain-X. Pièces d'auto économiques, c'est 8 magasins et un site transactionnel au pièceséconomique.com.
Acheter un bon système de chauffage ou de climatisation, ça peut vite devenir compliqué. Choisir le bon modèle, comparer les prix, comprendre les subventions. Ouf! Hey, chez EnviroConfort, on vous rend ça plus simple et on va jusqu'à vous faire vivre une vraie expérience pour l'achat de votre thermopompe. On vous conseille, on trouve le meilleur équipement pour votre maison, on s'occupe de l'installation et même de vous montrer comment ça marche. Bref, vous vous occupez de rien, sauf d'être bien chez vous. EnviroConfort, le confort sans le moindre effort.
Patio ou piscine en vue? Décorampe, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre rapidement une fabrication québécoise sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Rendez-vous sur déco-rampe.com ou visitez-nous à Québec, Lévis ou Saint-Apollinaire.
Saviez-vous que le Mitsubishi Outlander PHEV est l'hybride rechargeable le plus vendu au pays? En 2026, l'Outlander PHEV domine la compétition grâce à la plus grosse batterie de sa catégorie, offrant plus d'autonomie électrique pour vos déplacements et une puissance accrue. C'est le seul à vous offrir 7 places de série, la recharge rapide et la meilleure garantie de 10 ans ou 160 000 km. Profitez des subventions gouvernementales et de nos unités disponibles immédiatement. L'avenir est branché. Passez chez Sainte-Foy Mitsubishi ou Québec Mitsubishi.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Bellemare, quelques sujets à aborder avec vous en deuxième portion d'émission. Entre autres, un film qui a été présenté sans problème à Montréal, mais avec peut-être des problèmes à Québec. Le propriétaire du cinéma a dû refuser la tenue de cette projection du documentaire Génération Trans. On projetait le documentaire devant public, bien entendu, et après ça, il y avait une discussion avec le réalisateur de ce documentaire-là. Qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui pousse les gens à mettre de la pression sur des individus pour ne pas qu'ils diffusent l'information qu'ils ont à diffuser au travers ce documentaire-là, qui est un documentaire indépendant où on parle de la face cachée de la transidentité chez les jeunes.
Oui, c'est ça. Alors, écoute, moi, je suis renversé. Moi, j'aurais voulu aller voir ce film-là. J'avais même prévu y aller. C'est le 30 avril qu'on avait prévu ça à Québec, au cinéma Cartier, parce qu'il a été diffusé à Montréal. C'est, ça remet en question un petit peu toute la dynamique trans, là, à savoir est-ce que c'est correct. Je pense pas que le film réponde à la question. Il lance simplement la question en l'air. Est-ce que c'est correct qu'à partir de 14 ans, un jeune puisse adopter des procédures médicales ou retenir des procédures médicales
sans passer par les parents. Voilà.
Des médicaments, des traitements visant à modifier un petit peu la puberté ou l'élan de la puberté.
Ouais, parce qu'on dit que le point de départ du documentaire, c'est au Québec, à l'âge de 18 ans, on ne peut pas voter, on ne peut pas acheter d'alcool, ni faire un tas d'autres choses parce que la loi présume qu'une personne mineure n'a pas encore la maturité requise. Cependant, dès l'âge de 14 ans, il y a un enfant qui peut décider qu'il appartient au mauvais sexe et entreprendre seul une transition de genre. Bienveillance ou négligence, on se pose la question. Et ce que la personne dit, c'est on se questionne sur le fait que les jeunes, des mineurs à partir de 14 ans, ont l'autonomie décisionnelle pour avoir des traitements hormonaux et plus tard, à 16 ans, subir des interventions chirurgicales comme la mastectomie, donc retirer les seins de la femme. On se questionne et après ça, dans ce documentaire-là, puis après ça, il y avait une discussion ouverte avec les gens qui étaient invités dans la salle. Mais il semble que c'est un débat qui est sain. On apporte notre vision, puis par la suite, on débat.
Oui, c'est ça, parce que le phénomène de 14 ans, quand on a mis à 14 ans l'âge pour obtenir des médicaments, par exemple, j'ai toujours pensé que c'était au départ, parce que ça fait quoi, une vingtaine d'années que c'est comme ça, c'était au départ pour les anovulants, pour les problèmes d'acné, puis tu sais, un ado qui est un peu gêné d'y aller avec sa mère ou avec son père, il va y aller tout seul rencontrer le médecin pour des traitements mineurs. Mais là, on parle de traitements importants qui visent un changement de sexe. Alors que l'ado, parce qu'on parle d'ado à 14 ans, est en plein processus d'évolution biologique, puberté, etc. Garçon comme fille, et souvent au niveau mental aussi, la maturité n'est pas nécessairement au rendez-vous, etc. Il peut y avoir aussi des influences, il peut y avoir des problèmes psychologiques qui sont associés à ça. Alors, la question est parfaitement légitime, mais là, voici que le cinéma Cartier reçoit des espèces de menaces ou des espèces de courriels ou de textos ou de je ne sais pas quoi. Les réseaux sociaux se mêlent à ça et ils ont peur peut-être qu'il y ait du grabuge, que ce soit qu'il y ait du bris ou qu'il y ait des manifestations devant le cinéma et ils décident d'annuler la représentation. Je trouve ça tout à fait déplorable et ça m'a fait penser un peu à ce qu'on a vécu il y a quelques années. Je ne sais pas si tu te souviens, Robert Lepage, qui avait décidé d'annuler certains spectacles, Slav puis Kanata, avec un K, Kanata, ouais, qui étaient des spectacles qui avaient été montés et on avait reproché à Robert Lepage de l'appropriation culturelle parce qu'il n'y avait pas des vrais Noirs, des vrais Autochtones dans ces spectacles, etc. Il y avait eu tout un tollé autour de ça, autour de l'appropriation culturelle et finalement, Lepage avait décidé d'annuler les représentations. Ce qui est dommage, mais c'est ça. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression que ça prend tout le temps l'unanimité et les diffuseurs, les réalisateurs, les producteurs de spectacles sont toujours mal à l'aise s'il y a une opposition. Ils ont peur d'être visés par des manifestations, ils ont peur d'être boycottés, ils ont peur de ci, de ça. Alors, c'est ce qui fait que la représentation du film n'aura pas lieu à Québec.
Ouais.
Moi, je suis scandalisé. Je trouve ça très triste parce qu'on se drape derrière la liberté d'expression, qui est un droit fondamental, un droit constitutionnel. Québec, Ottawa, on a le droit de parler, on a le droit d'avoir des avis, même des avis qui sont des fois très contestables. Mais ça me fait penser aussi à quand Mme Proulx, la ministre du Tourisme, avait décidé d'annuler un congrès à Québec parce qu'il y avait des pro-vie là-dedans. Là. Elle a été poursuivie d'ailleurs, je ne sais pas ce qui est advenu de ça, je pense qu'elle a témoigné il y a quelques mois là-dessus, gouvernement du Québec qui dit, ben là, nous autres, on est pour l'avortement, donc on empêche des gens pro-vie d'exprimer un point de vue dans le cadre d'un congrès. Tu sais, je veux dire, oui, tu peux avoir une position. Moi, je suis pro-vie. Je suis plutôt pro-choix, mais je suis d'accord avec le fait que des pro-vie puissent présenter leur point de vue, puis se réunir, puis c'est la liberté d'association, la liberté d'expression, ça vaut pour tout le monde. Si ça vaut juste d'un bord, c'est pas une vraie liberté.
Mais comment notre monde... Puis là, faut faire attention, parce que le sujet qui était là-dedans, tu sais, je m'exclus de ça, OK? Mais comment le monde peut progresser si on n'accepte pas des gens qui sont rebelles ou plus créatifs pour challenger des fois l'ordre établi? Parce que des gens qui sont toujours c'est comme ça, ça ne fait pas progresser une société. Mais des gens qui discutent, des gens qui amènent de nouvelles idées, des gens qui ont des opinions, des gens qui expriment leur mécontentement d'une façon honnête et efficace et adéquate, moi, je suis pour ça. C'est comme ça qu'une société avance. Mais si on empêche les gens de s'exprimer parce qu'ils ne pensent pas comme la majorité des gens, bien, il y a encore des gens qui pensent qu'aujourd'hui, la Terre est plate, là, alors que j'ai des petites nouvelles pour eux autres, la Terre est ronde. Mais il y a toujours bien des scientifiques qui se sont penchés à savoir, attends un peu, là, on pense que la Terre est plate, on va vérifier. Non, moi, je pense que la Terre est ronde. Mais si on n'avait pas accepté l'idée que la Terre était ronde, de cet individu-là qui nous l'a dit le premier, bon, on pensera encore en 2026, peut-être, qui sait, que la Terre est plate. Ça prend des gens qui sortent du cadre, là, pas juste des gens qui écoutent, là, ça prend des gens qui sortent du cadre, puis qui challengent le monde, puis qui discutent. Puis des fois, oui, c'est des sujets qui nous rejoignent peut-être un peu moins, ou c'est des sujets qui choquent en disant « Non, c'est réglé depuis des années, mais une société qui progresse, c'est une société qui se pose des questions. »
Oui, c'est ça. Et c'est précisément la liberté d'expression qui a permis à des groupes, des manifestations, d'obtenir des changements importants.
Le droit de vote des femmes.
Le droit de vote des femmes.
Les suffragettes. Les suffragettes qui se sont battues. Moi, j'ai vu le film des suffragettes. J'avais été agréablement surpris de ce film-là parce que je savais que ça avait brassé. Je savais pas que ça avait brassé autant. Mais les femmes qui se sont battues pour leur droit de vote, moi, je suis né. Les femmes avaient le droit de vote. Là. Jamais je pensais qu'ils avaient rushé autant pour avoir le droit de vote. Mais si les gens étaient là, les femmes n'ont jamais eu le droit de vote, puis c'est bien parfait. Ben, en 2026, on serait encore avec des femmes qui n'auraient pas le droit de vote. Ça n'aurait aucun sens, Maître Bellemare.
Oui. Mais on s'imagine difficilement qu'un groupe pourrait aujourd'hui dire on va retirer le droit de vote aux femmes.
Là. Ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire, Maître Bellemare.
En 1940, ils ont le droit de le dire, c'est ça. Mais tu vois, l'avortement, ça a été un combat incroyable. Moi, je me souviens quand j'étais à l'université, dans les années 70, 75, 79, Université de Montréal, il y avait des débats assez farouches sur la question de l'avortement. Mm-hmm. C'est précisément des manifestations, des films, des combats devant les tribunaux avec Morgan Taylor, des Chantal Daigle, tout ça qui a permis de faire avancer. Mais c'est précisément cette liberté d'expression, liberté d'association qui a permis de faire avancer la cause. On ne peut pas penser que des gens qui sont contre puissent ne pas s'exprimer. Et dans le dossier dont on parle ce matin, ce soir, c'est la question du film avec la question des trans, les processus de transition de sexe pour des jeunes de 14 ans. C'est vraiment d'actualité. Et puis, si on n'est pas capable de présenter un film qui n'est pas un film, j'imagine, extrémiste, qui n'est pas un film simplement qui lance la question. Je me souviens, il y a quelques années, il y a un congrès du Parti conservateur. C'est Pierre Poilievre qui était chef du parti. Je pense que c'est en 2024, à l'automne. Un congrès du Parti conservateur canadien qui s'est tenu au Centre des congrès de Québec, où il y a une résolution qui a été débattue et adoptée par les membres à l'effet qu'il n'y aurait aucun changement de sexe et aucune procédure de cette nature-là visant un changement de sexe qui serait possible au Canada avant 18 ans. Il n'y a pas eu de manif, là.
Non.
Il n'y a pas eu de gros débordements. Et c'est pourtant un parti politique, l'opposition officielle à Ottawa, les membres qui ont voté pour cette résolution-là. Alors, comment ça se fait qu'un cinéaste dont la mission consiste à présenter des images sur écran avec un thème, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de présenter son film à Québec, tu sais? Mais c'est sûr qu'il y a une salle qui est un peu frileuse, là. Probablement que le quartier est un peu frileux par rapport à ça. Mais le quartier, c'est un cinéma indépendant, c'est une salle indépendante. Je n'ai pas l'impression qu'il va être capable de trouver une autre salle où il va être capable de la diffuser, à moins qu'il fasse ça dans une école ou qu'il fasse ça dans un lieu public qui n'est pas véritablement une salle de cinéma. Là.
Mais tant aussi longtemps que les gens qui présentent des événements ou des gens qui sont propriétaires de salles vont plier aux menaces des individus qui ne veulent pas que d'autres personnes qui ne pensent pas comme eux s'expriment, ben, tant aussi longtemps que les gens garderont pas leurs couilles, ben, nécessairement, vous leur donnez le modus operandi pour faire annuler le prochain événement qui ne fera pas leur affaire. Là.
Ouais, c'est ça. Ça prend juste deux, trois affaires, puis deux, trois Facebook, deux, trois réseaux sociaux, puis à un moment donné, ils se mobilisent, s'en vont manifester, mais ils viendront manifester. Mais ils ont peur qu'il y ait des bris, puis tout ça. Mais Robert Lepage a plié il y a quelques années. Mm-hmm. C'est quand même pas le dernier venu, là. Il y a quand même le Diamant, c'est une salle respectée qui présente des shows d'envergure internationale. C'est un grand producteur. Robert Lepage, très respecté partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, puis il a décidé d'annuler ses deux spectacles pour des raisons.
Ils ont le droit de le faire. Je sais pas s'ils ont peur. Moi, je pense qu'ils ont le droit de l'annuler s'ils désirent. Mais ces gens-là donnent le modus operandi pour faire annuler des conférences, des documentaires, des projections de films à chaque fois qu'ils reculent. Puis qui disent « Ah non, ben, je ne présenterai pas ça. » Il y a des gens qui sont fâchés. T'sais. Mais c'est pas comme ça que la société va avancer. La société va avancer quand tout le monde pourra s'exprimer. Tant aussi longtemps que c'est légal, bien entendu. Là. La société avance avec les gens qui sont anticonformistes. Elle n'avance pas avec des gens qui sont conformistes comme moi. Là. Elle avance avec des créatifs. Elle avance avec des rebelles, des femmes qui se sont battues pour le droit de vote. Ils ont fait avancer leur cause. Puis en mangeant des claques à la gueule, ils ont réussi finalement à obtenir le droit de vote parce qu'ils ont travaillé fort. Les gens qui acceptent le statu quo ne changent pas vraiment les lois, ces gens-là, la plupart du temps. Vous êtes un rebelle, vous aussi, Maître Bellemare. Quand vous vouliez changer le no-fault, vous étiez un rebelle.
Oui, je suis un rebelle aussi, puis fier de l'être. Mais je peux te dire que ce film-là, la Génération Trans, reçoit à travers ce qu'on vient de dire pendant quelques minutes ce soir, une publicité. Il y a le Journal de Québec qui en a parlé et je ne sais pas qu'est-ce que le producteur en pense. Ça a été diffusé à Montréal. Je ne sais pas, on dit que c'est Jean-Pierre Roy qui est le réalisateur indépendant qui avait probablement avec à compte d'auteur, probablement que c'est lui qui a financé toute cette démarche-là, le cinéma quartier. Mais j'espère que M. Roy, le réalisateur Jean-Pierre, va trouver une façon d'assurer la diffusion de son film. Parce que maintenant, on sait qu'il existe. On sait qu'il a été interdit par la salle en question de peur de représailles. Mais moi, je veux voir ce film-là, puis j'espère que je vais être capable de le voir assez rapidement, qu'il va être disponible, je ne sais pas comment, en ligne ou autrement, mais qu'il va trouver une façon de le rentabiliser et de permettre le meilleur accès à ces images-là. Parce que moi, ça m'intéresse. C'est la première fois, je pense, qu'on a un film qui a été conçu là-dessus. On a eu plein d'émissions qui ont été faites. Je pense qu'Enquête à Radio-Canada a fait une émission l'année passée là-dessus qui était quand même de bonne qualité. Mais au-delà des entrevues, là, une analyse de fond là, dans un film d'une heure, une heure et demie, là, je pense que ça mérite d'être vu.
Maître Bellemare, dernier sujet de la soirée, si vous le désirez bien. Connaissez-vous Jean-Marie Rebello, qui est un résident de la Chine, qui est âgé de, quand je dis la Chine, c'est dans un même mot, là, dans le secteur de Montréal, qui n'est pas la Chine communiste, là, qui est âgé de 66 ans. Lui, il espérait se voir accorder une indemnité de 5 000$ aux petites créances pour avoir vu ses vacances à Cuba gâchées par son propre comportement. C'est arrivé ça en février 2025. Il y avait un voyage de prévu à Varadero et il y avait un comportement qui était inacceptable à l'intérieur de l'avion en vol, ce qui fait en sorte que l'avion a dû atterrir pour sortir M. Rebello. Et lui voulait 5 000$ pour avoir vu son voyage gâché. Puis finalement, il a perdu la poussière puisqu'il a été condamné à 1 000$ d'amende pour donner à Sunwing pour les dommages qu'il a causés.
Je pense qu'il est bien chanceux de s'en être sorti comme ça, parce que si j'avais été le juge, moi, ça aurait été 15 000 qu'il aurait dû payer, là, parce que c'est le montant maximal aux petites créances. Écoute, moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie d'être dans un avion commercial avec une espèce d'emmerdeur, là, pas trop loin de mon siège. Et je vais te dire là, que ça a passé proche, je suis en bien au point. Là. Ça m'est arrivé dans un vol Paris-Montréal, ça m'est arrivé dans un vol aussi en provenance de Cancun, un vol de jour, où l'individu était pas mal chaud, pas mal réchauffé. Aujourd'hui, ils empêchent de rentrer, mais il y a quelques années, c'était plus facile, même quand tu étais gorlot, de prendre ton siège dans l'avion. Mm-hmm. C'était comme un droit sacré. Mais c'est un jugement intéressant. Monsieur ne pourra pas, j'espère, prendre l'avion à partir de maintenant, parce que quand tu as fait du grabuge, là, ils ont des possibilités sur les ordis là, de Transport Canada d'empêcher quelqu'un de prendre l'avion. Ce n'est pas marqué dans la dépêche, là, parce que c'est une affaire qui s'est réglée aux petites créances. Monsieur a perdu sa cause, parce que le juge a considéré qu'il avait été l'artisan de son malheur, c'est lui qui a fait du grabuge. Puis quand tu es dans un avion, surtout, écoute, c'est en destination de Varadero, mais l'avion a dû rebrousser chemin. C'est les policiers qui sont intervenus au bout de la ligne, mais j'espère que ce gars-là est interdit d'accès à n'importe quel transporteur aérien au Canada à partir de maintenant, parce qu'on peut les empêcher. Ouais. Les gens qui ont commis des actes terroristes, etc., on peut les bloquer.
Mais dans le cas de Sunwing, effectivement, son nom peut être mis sur la blacklist, là, mais s'il veut aller à Air Transat ou ou Air Canada ou une autre compagnie aérienne, il n'y aura pas de problème.
Oui. En tout cas, il me semble que c'est assez grave. Quand tu as été assez turbulent pour faire en sorte que l'avion rebrouche chemin, c'est pas des jokes. L'avion décolle, puis le pilote est tellement frileux parce que là, la guerre est pognée dans l'habitacle. Et tu retournes. Tu pensais, toi, les frais que ça peut représenter, les frais de l'avion, l'équipage, le retard pour tout le monde. Il y a des centaines de passagers dans l'avion. Tout le monde est retardé en arrivant là-bas.
Juste l'essence pour le décollage, Maître Bellemare, là, c'est une coupe de 2$ qui revole quand il met le gaz dans le fond. peux vous le dire. Hey, dernier sujet, il reste un vrai 1-2 minutes, Maître Bellemare. Que penser des gens sur les réseaux sociaux en fin de semaine qui étaient déçus que Donald Trump se soit pas fait tirer et qui ont fait part de leur mécontentement? Ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent être retenus aux douanes américaines? Est-ce qu'ils peuvent être surveillés? Est-ce qu'ils peuvent être empêchés de séjour aux États-Unis avec ce type de comportement-là sur les réseaux sociaux?
J'espère que les Américains ont bien entendu le message et qu'ils sont capables de retracer ces gens-là. Là. Si c'est possible de le faire, pourquoi pas? Parce que c'est quand même un commentaire ou dans certains cas même des menaces contre le président des États-Unis. Mais les réseaux sociaux eux-mêmes sont mal à manger s'ils permettent que ces messages-là soient diffusés.
Parfaitement d'accord.
Puis ça a l'air que c'est tous des amis de M. Trump. Là. Ils étaient tous bien fins quand Trump a été élu, là, quand ils se sont tous pointés à Maison-Blanche pour dire qu'il était bien fin et qu'il allait permettre, au nom de la liberté d'expression, la diffusion de messages. Peut-être que là, ça a rebondi d'en face parce que la liberté d'expression permet à des imbéciles de souhaiter ouvertement l'assassinat ou la mort de M.
Mais
Trump.
Pensez-vous que c'est la proximité?
C'est acceptable.
Pensez-vous que c'est la proximité qui fait en sorte que, exemple, quelqu'un de QS, le Québec solidaire, qui a été attaqué? T'sais, si quelqu'un parle de Québec solidaire, je ne sais pas, on prend Gabriel Nadeau-Dubois là, parce que c'était la personnalité la plus connue chez Québec solidaire. Mettons que moi, j'écris ça sur les réseaux sociaux. Hey, dommage qu'on l'ait raté. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Je fais le tour du Québec. Là. Avec raison, ça n'a pas de bon sens de souhaiter la mort de quelqu'un parce qu'au niveau politique, ils ne pensent pas comme toi. Mais comme Donald Trump est loin pour eux, Washington, c'est pas si loin que ça de Montréal, là. Mais comme Washington est loin, ils se permettent de dire des affaires comme ça. C'est particulier. Ouais,
c'est sûr, mais il faut que ça soit criminalisé. Hein? Si ce n'est pas prévu dans le code criminel, parce que souhaiter la mort de quelqu'un, c'est pas une menace. Si tu dis « je vais te tuer » ou « je veux te tuer »,
mais c'est pas de la promotion de la promotion de la haine. Mais c'est pas de la promotion de la haine, Maître Bellemare.
Oui, propos haineux, ça pourrait être des propos haineux. Puis comme c'est pas dans un dessin religieux, tu t'appelles pas Charkaoui, peut-être qu'on va te blâmer puis qu'on va t'accuser. Peut-être des propos haineux, je sais pas. C'est limite. Puis tu sais que le directeur des poursuites criminelles et pénales, surtout au Québec, là, est assez frileux. Puis s'il n'est pas convaincu d'obtenir une condamnation, il ne prendra pas d'accusation. Alors, c'est pour ça que nos nos totos sont sur les réseaux sociaux puis qui souhaitent la mort d'un puis de l'autre. Puis c'est pour ça qu'on assiste à ce triste spectacle-là. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, mais de là à l'exprimer, puis à essayer de créer une espèce de vague sur les réseaux sociaux en souhaitant la mort du président américain, je pense que c'est... Mais ça prend des gestes, je pense, un petit peu plus poussés que ça.
Ouais.
Pour pouvoir être accusé en vertu du code criminel canadien, parce que ce sont des Canadiens qui diffusent ces informations-là, mais de là à savoir est-ce que les Américains aux douanes vont pouvoir checker ça. Moi, j'ai l'impression que s'ils fouillent dans ton téléphone puis qu'ils retrouvent un message dans lequel tu as souhaité la mort du président des États-Unis, je suis convaincu que dans l'état actuel des choses, tu ne passeras pas les douanes.
Ça se peut effectivement que tu sois interdit ces jours.
Détecter dans l'univers immense des réseaux sociaux.
Maître Bellemare, votre prédiction pour le match de hockey du Canadien mercredi contre le Lightning de Tampa Bay, la série est égale 2-2.
Moi, je pense qu'ils vont gagner.
Oh!
Je pense qu'ils vont gagner à Tampa Bay.
Ouais. Puis on gagne-tu à Montréal après?
Non. Je pense qu'ils vont perdre à Montréal.
Faites donc bien plate.
Un septième match.
Puis là, le septième match, qui va gagner ça, Maître Bellemare, là?
On va se reparler d'ici là.
Ça manque de courage aux prédictions, Maître Bellemare. Moi, je dis le Canadien en 7.
Étape par étape.
Canadien en 7. Merci beaucoup d'avoir été là, Maître Bellemare, avec nous à chaque lundi. On invite les gens à aller faire un tour chez bellemareavocat.ca pour plus de détails. Vous êtes un spécialiste de l'IVAC, de la SAC, de la CNSST, du moins pour les dossiers qui vont pas vraiment bien. Donc, voilà, bellemareavocat.ca. Bonne semaine, Maître Bellemare.
Marceau, le soir.
Ce segment d'émission présenté par Chapeau Ben Lévis qui fête son premier anniversaire. Chapeau Ben, le centre de liquidation présent à Québec, Lévis et Saint-Georges. ChapeauBen.com.
Boulevard 102.1 veut savoir. Votre plume sera-t-elle à la hauteur? Cette semaine, l'équipe de Gravel dans le retour en collaboration avec Tyzone vous lance un défi un peu spécial. Celui d'écrire des proverbes au blvd.fm. Soyez créatifs, inspirés et surtout restez à l'affût pour savoir à quel animateur vous devrez adresser votre message. Chaque jour, vous pourriez gagner une carte cadeau de 50$ chez Tyzone pour craquer les biscuits de fortune et en bonus, courez la chance de gagner un an de Général Tao.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15%. Visitez déco-rampe.com.
Salut, c'est Denis Gravel. Tous les lundis, 19h à Boulevard 102.1, manquez pas les podcasts des grands événements de Québec, la deuxième saison de notre série balado où on révisite les moments marquants qui ont façonné notre ville. Chaque épisode, je m'assois avec ceux qui y étaient, qui ont vu, entendu et vécu. On revient sur la tuerie de l'Halloween, l'histoire du FEC, le départ des Nordiques, la guerre des Hells et le 400e de la ville de Québec. Des événements qui résonnent et qui doivent encore résonner aujourd'hui. Les grands événements de Québec tous les lundis 19h et dispo partout le lendemain sur YouTube et toutes les plateformes balado.
Le podcast Grands événements vous est présenté par Climatisation Paquette et sa vente de produits Mover.
La marque la plus fiable selon Protégez-vous.
Climatisation Paquette!
Avant de passer au garage, n'oubliez pas de passer chez Pièces d'Auto Extra. On dit que les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Manquez pas ça. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et Beauport. Piècesautoextra.com.
Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1 pour regarder le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Chez Scoop Vision, on a l'œil pour le style. Vous avez une chose à apporter. Votre prescription. Après, on s'occupe du reste. Des lunettes au prix du web, mais avec du service en boutique. C'est le meilleur des deux mondes. Scoop Vision, le style commence par vos yeux. C'est la saison F-Sport chez Boulevard Lexus. Obtenez le NX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte, à 808$ par mois, et le RX 350 F2 Sport 2026, location 24 mois avec acompte, à 878$ par mois.
Le printemps, c'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, profitez de jusqu'à 1000$ de rabais chez Enviro Confort. Ajoutez à ça les remises manufacturières et les subventions disponibles. disponibles. Thermopompe, chauffage, climatisation. Économisez maintenant. Soyez prêts pour l'été avec Environ Confort.
Boulevard 102.1. Ce pas à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemblant. Rassemblant.
Come together.
La radio de l'extrême-centre au Québec.
Maintenant, 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Le podcast des grands événements avec Denis Gravel est une présentation de Climatisation Paquette. Climatisation Paquette, c'est quoi? C'est la vente, c'est l'installation, c'est la réparation de systèmes de climatisation et de chauffage. On a une nouveauté pour toi. On offre maintenant le service de nettoyage de